Déjà, je voulais vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir. La mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que il y a 3 heures à peu près, Monsieur Rotman nous a fait prévenir par sa production qu'il ne pourrait pas être là parce qu'il était sur un tournage, alors qu'il nous avait promis d'être présent. Bon, voilà. Mais quand même, notre assistance est honorée de la présence de Monsieur Edgar Morin. Ouais. Je voulais dans un premier temps aussi remercier la mairie de Paris qui nous accueille depuis déjà un petit moment dans cette salle. Le service de Madame Vieux-Charrier et son service de la mémoire combattante qui se mettent toujours en quatre pour essayer de nous aider et de nous soutenir. Et puis les personnels de l'auditorium, dont Stéphane, qui sera notre technicien ce soir, qui, pareil, font tout ce qu'ils peuvent pour que la soirée nous soit toujours agréable. Voilà. Merci pour eux. Et donc, le film que nous avons choisi de vous présenter ce soir, c'est La tragédie des brigades internationales, donc de Patrick Rotman. C'est un film de documentaire de 90 minutes qui est essentiellement à base d'archives qui n'ont quasiment jamais été exploitées jusqu'à présent. Et ce film va nous raconter en fait la révolution espagnole et la guerre au travers le prisme des brigades internationales. Ces internationaux qui sont venus dès juillet 36 se battre et défier leur destin pour défendre leur idéal dans une terre étrangère. Ils étaient de toutes les nationalités, ils étaient aussi de toutes les couches sociales, intellectuels, chômeurs, ouvriers. Et ces hommes-là, pour un grand nombre, ont été tous mis en avant, en première ligne sur les fronts. Une grande partie d'entre eux ont trouvé la mort pour défendre leur idéal sous les balles franquistes. Une autre partie, beaucoup plus tragiquement, a trouvé la mort aussi sous les balles de leurs propres dirigeants du Comintern. Voilà, et c'est un peu cette histoire que va nous raconter ce film. Donc, juste avant de passer le film, je vais donner la parole à Marie qui va vous retracer un peu le contexte historique. Et puis après, on passera directement au film pour qu'on puisse avoir le plus de temps possible pour le débat.
Bon, bonsoir et merci d'être venu. Donc effectivement, je vais juste en deux mots rappeler un petit peu le contexte dans lequel va se dérouler le film qu'on va voir tout à l'heure. Donc en février 1936, en Espagne, arrive le Frente Popular, qui est une coalition de gauche et des syndicats. Et dès juillet, l'armée hostile à ce gouvernement va se soulever sous la direction de généraux félons, dont Franco, Mola, Godet, Fanjul, Sanjurjo, Queipo de Llano, etc. Une quarantaine de mille d'hommes cantonnés au Maroc vont essayer de traverser Gibraltar pour rejoindre la péninsule ibérique, rejoindre l'Espagne, tandis que dans les villes où il y a des garnisons vont également se soulever. Le gouvernement espagnol va manquer de réaction, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est le peuple qui va s'armer en attaquant souvent les casernes pour essayer de déjouer ce coup d'État. Effectivement, le pronunciamento, le coup d'État va échouer. Alors que les généraux pensaient qu'en quelques jours le gouvernement républicain serait renversé, ça ne sera pas le cas. Mais toutefois, avec les atermoiements du gouvernement républicain, en quelques jours, le tiers de l'Espagne sera tombé aux mains des nationalistes. Et là va débuter à la fois la guerre d'Espagne et une révolution sociale, parce qu'au niveau du peuple, entre autres au niveau des syndicalistes, UGT, SNT, qui est l'UGT socialiste, la CNT, un syndicat narco-syndicaliste essentiellement implanté et majoritairement implanté en Catalogne, vont parallèlement à la lutte antifranquiste vouloir faire une révolution sociale. Donc des terres vont être collectivisées, les usines vont être occupées, et dans ce cadre-là, la militarisation va être faite au niveau d'une organisation de la défense au plus près du peuple. C'est ce qu'on va appeler les milices qui vont partir se battre contre les fascistes. Donc milices organisées essentiellement pareil par l'UGT et la CNT. Parallèlement à ça, hors d'Espagne, dès juillet 36, donc dès le début du soulèvement, des centaines d'hommes et de femmes du monde entier, alors ils seront essentiellement, bien sûr, vu la proximité de France et d'Europe, d'Allemagne, de Belgique, beaucoup étant déjà en France réfugiés, entre autres en ce qui concerne des Polonais, des Allemands, des Italiens. Ils vont rejoindre spontanément ces milices pour se battre contre le fascisme. Donc là, on est en juillet 1936. Quelques mois plus tard, le Parti communiste voulant essayer de contrôler un petit peu ce qui se passe en Espagne, va créer, ça sera à partir d'octobre 1936, ce qui va être appelé les brigades internationales. Au total, entre ceux qui sont arrivés spontanément, plus ceux qui vont arriver organisés par le Comintern, qui est l'international communiste appelé aussi Troisième International, ils seront environ 35 000 volontaires qui et regrouperont plus d'une cinquantaine de nationalités. Alors, sur le front, tous ces combattants, républicains comme les étrangers qui viendront les secourir, seront mal équipés, mal entraînés et devront faire face à une armée au contraire puissante et épaulée par les armées de l'Axe. Hitler, Mussolini et Salazar vont effectivement envoyer des hommes, des chars et des avions pour aider les nationalistes. Donc face à un armement super sophistiqué, très puissant, les républicains vont se retrouver souvent très, très démunis. D'autant qu'entre-temps, il y aura eu le pacte de non-intervention qui fera que très rapidement, seule l'Union soviétique va être pourvoyeur d'armes, armes qui seront souvent des armes un petit peu désuètes, souvent datant de 1917, donc par rapport à l'armement des armées fascistes qui seront beaucoup plus importantes et plus puissantes, et armes que l'Union soviétique vendra très cher à la République espagnole, qui sera payée par des caisses d'or. Quant aux brigades internationales, objet de la projection de ce soir, on peut dire que s'ils furent des héros pleins d'abnégation et de courage lors des batailles, ils eurent aussi à faire face à leur grande consternation et déception, au fossé de sang qui se creusa au cœur du camp républicain à cause des liquidations staliniennes. Là, on voit surtout les brigades internationales, et effectivement elles s'appelaient comme ça, qui est créée par le Comintern, mais comme on vous l'avait rappelé avant, et qu'on ne voit pas trop, enfin, ou alors j'ai pas bien suivi dans le film, dès le mois de juillet 39, il y a un mouvement spontané de personnes qui vont partir pour défendre la République et se battre contre le fascisme. Là, c'est des personnes qui partiront spontanément, qui rejoindront les milices et qui feront partie de ceux qui refuseront l'embrigadement par le Parti communiste et la militarisation. Si certains ou certaines parmi vous ont vu le film de Ken Loach, Tierra y Libertas, ou Land and Freedom, on voit très bien d'une part ce mouvement spontané qu'il y a en juillet 39, Et en juillet 36, pardon, de la même manière qu'on voit à la fin du film les mai 37 et le et l'intervention du Parti communiste pour détruire tout ce qu'a voulu faire la révolution et entre autres détruire les milices et vouloir une armée.
Proportionnellement à la population du Canada, le contingent des brigadistes, les Mackenzie Papineau, les MacPap, qu'on les appelait, étaient les plus importants après les Français. C'est pour dire qu'il ne faudrait pas les oublier. Et c'est vrai qu'ils ont fait partie, une grande partie, avec le bataillon Abraham Lincoln. Et puis, voilà, ça, je voulais dire ça surtout. Mais ce qui est important, c'est qu'ils étaient surtout formés d'émigrants récents au Canada. Et parmi eux, essentiellement des Ukrainiens. Et parmi les Ukrainiens, essentiellement des anciens Nestor Makhnour, anéistes, qui avaient fui, justement, quelques années auparavant, le génocide par famine qui avait été ordonné par Staline. C'est intéressant de le savoir parce qu'on oublie ça aussi, qui avait été un motif spécial pour eux, justement, de se battre. Une autre chose pour la petite histoire, c'est quand ils sont retournés, ceux qui ont survécu, très peu d'ailleurs, quand ils sont revenus au Canada, eh bien, pas seulement on ne les a pas bien reçus, mais on les a considérés comme hors la loi. Et en tant que ça, on a voulu les condamner, mais enfin, finalement, ça s'est fait qu'ils n'ont pas été condamnés, mais ils ont été déclarés hors la loi. Et c'est seulement des décennies après que la législature de la province du Manitoba a redonné leurs droits civils, etc. Depuis, il y a un monument en leur honneur à Victoria, dans la province de la Colombie-Britannique. Il y en a un autre, justement, à Manitoba. Mais surtout, le plus récent et le plus important se trouve dans la capitale du Canada, Ottawa. Et à l'inauguration de ce monument, qui est extraordinaire parce que c'est un découpage en métal, très bien fait. C'est vrai qu'il y a marqué « Nopasaran », bien sûr. Mais à l'inauguration, c'est Adrian Clarkson, qui était le gouverneur du Canada à l'époque, qui a fait cette inauguration. Et alors, à ce moment-là, elle avoue qu'elle était tout à fait ignorante au début, au sujet de ces MacPaps. Et elle continue en disant, c'était quand même des combattants vaillants de la plus noble des causes. Ça, ce sont ses paroles. Et puis, elle a continué. Nous avons les témoignages de George Orwell. Et c'est là qu'elle mentionne déjà, en 2002, le film de Ken Loach. Land and Freedom, c'est comme ça que ça s'appelle. Tierra y Libertad.
Merci. Écoutez, moi, je trouve que l'histoire des brigades est très bien contextualisée parce que ce film a un grand mérite, c'est de montrer la tragédie dans la tragédie, c'est-à-dire la grande tragédie, la première tragédie qui enveloppe tout, c'est la défaite de l'Espagne républicaine, la réussite du coup d'État de Franco, les interventions italiennes, allemandes, enfin, on suit cette tragédie dans le film avec toutes ces défaites successives. Et l'autre tragédie qui a longtemps été masquée, je pense à des films comme Mourir à Madrid, c'est la tragédie au sein du camp républicain qui a commencé peut-être dès le début de la guerre civile avec une répression sur les communes d'Aragon, les communes paysannes d'Aragon, etc. Et qu'il s'est exaspéré avec les événements de Barcelone et surtout l'arrestation de Nin et du Poumiste et cette histoire où dans le fond le général Orlov voulait recommencer un procès de Moscou où Nin et les autres jouaient le même rôle, n'est-ce pas, l'aveu, etc. Alors, je pense que ça, c'est un film qui est très bien et qui montre aussi l'aspect Orwell, le rôle de l'artiste. Alors là aussi, il y a une sorte d'ambiguïté à laquelle on ne peut pas échapper, parce que c'est vrai que le 5e régiment communiste a défendu héroïquement Madrid. C'est vrai que dans ces brigades sous commandement communiste, l'action est héroïque, mais c'est vrai aussi que ces brigades elles-mêmes dans la complexité, parce que d'un côté, le responsable, Marty, était une brute, terrifiante, enfin c'était un... Et moi j'ai connu, mais il n'en a jamais parlé, son adjoint qui s'appelait Maurice Lampe, qui était aussi... Mais je ne sais pas, qui s'est tu sur ses secrets. Mais d'ailleurs, ce film indique à peine la répression qu'a fait Marty et les meurtres qu'il a causés parmi les brigades. Bon, enfin, ce film est déjà très bien. Alors donc, si vous voulez, on est complètement déchiré parce qu'en même temps, on déplore cette mort atroce de la République et en même temps... On trouve horrible tout ce que cette République a été entièrement noyautée par l'URSS et par le Parti communiste est devenue quelque chose de monstrueux. Et moi, je pense que ce film a le mérite de nous mettre en face de cette tragédie. Et voilà, il est par là, il est... Enfin, moi qui ai vécu tout ça, bien sûr, pas là-bas, mais en France... Très profondément, tous ces événements-là, j'en ressens une émotion extraordinaire.
Oui, je voudrais simplement dire une chose. Pendant longtemps, en tout cas quand j'étais jeune, j'entendais parler de la guerre civile espagnole. Mais on ne peut pas parler de guerre civile. C'est la guerre d'Espagne, puisque, comme on l'a vu, toutes les grandes puissances fascistes, italiennes, allemandes, plus donc l'URSS, ont joué un rôle absolument déterminant. C'est évident. Hein. Et c'est terrible, je trouve, de voir à quel point ces hommes, ces femmes, dans leur naïveté, leur volonté de sauver la République, se sont fait avoir par des dirigeants qui ne pensent qu'à assurer la suprématie de leur camp. Voilà.
Bien, merci. La dernière intervention va me permettre de commencer la mienne, parce qu'on parle de responsables politiques qui ne voyaient que l'intérêt de leur camp. Moi, quand j'étais adolescent, j'entendais souvent « Ah, ces Espagnols, ils n'ont pas de discipline, ils ne savent que se battre entre eux. C'est leur division qui a causé la défaite espagnole. » C'est pas vrai, c'est pas la division. Ils n'étaient pas divisés, hein, dans les milices, catalans et castillans, ils étaient ensemble, il n'y a pas de problème. Je prends cet exemple parce que, bien sûr, il est d'actualité. Mais ce qui a causé la mort, enfin la défaite de la guerre d'Espagne, c'est qu'on a tué la Révolution. Et ceux qui l'ont tué, ils ont un nom. Ils ont un nom. Et pendant 50 ans, on n'en a pas parlé. Le 24 août, l'association 24 août a passé ici Land and Freedom, hein, de Ken Loach, qui nous a permis de dire que pendant 50 ans, il y a eu une chape de plomb sur l'historiographie de la guerre d'Espagne. Quand on voit un journal avec un article signé Jean Bruat qui dit, par exemple, le complot nazi trotskiste, ben c'est le même Bruat qui, quand moi j'étais jeune étudiant d'histoire, était un ponte à la Sorbonne. Donc pendant 50 ans, on nous a masqués, et on nous a masqués à travers, par exemple, la belle épopée, l'une des plus belles pages qui soit de l'engagement humain qui sont les brigades internationales. On nous a caché ce qu'on en a fait, car au départ, effectivement, il y avait un engagement qui n'était pas celui des staliniens, qui était un engagement spontané, comme celui d'Orwell. Et heureusement qu'il y a eu Orwell, parce que sans ça, on n'aurait rien su. Il y a eu plein d'écrivains militants, anarchistes de la Faille ou du Poum, mais qui n'avaient pas la notoriété suffisante. Maintenant, on commence à regarder un peu ce qu'ils ont écrit. Et moi, je vous conseille de lire, parce qu'on comprend ce qu'était la répression des staliniens et de celui dont on n'a pas dit, comme on l'avait surnommé, Marty, hein, le boucher d'Albacete. cette répression qui a eu lieu dans qu'ont connu les brigades internationales, il faut lire ce livre de Sigmund Stein. Hein, alors voilà, ça fait partie des livres qui existaient en quelque sorte, ou qui ont été écrits avec la même veine, mais ils n'avaient pas la notoriété. Heureusement que Orwell était là, et maintenant qui remet en question Orwell? Personne. Sans ça, on en serait peut-être encore à Jean Brua et ses congénères. Alors, ce livre, notez-le, c'est Sigmund Stein, Ma guerre d'Espagne, Brigade internationale, la fin d'un mythe. Bon, ben voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps.
Attends, je vais répondre au monsieur, là. Je vais répondre et compléter. Quand vous dites que Orwell n'est pas contesté, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une école d'historiens en Espagne actuellement, et notamment quelqu'un qui s'appelle Ucelay Dacal, qui traite Orwell comme... comment elle s'appelle, l'Australienne, qui est venue aussi combattre en Espagne, de touristes. Ils étaient là en touristes, comme ça. C'est une école qui se développe en Espagne. C'est Ucelay Dacal, il s'appelle. Hein. Donc, est très connu. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue. Donc, il faut le tempérer. Hein. Alors,
on a passé l'année dernière, justement, à la salle des fêtes, à la place des fêtes, au centre d'animation, le film de Solé sur le camp d'Argelès, où il évoque effectivement la grève des femmes et la révolte des femmes d'Argelès pour empêcher le départ des brigadistes enfermés à Argelès dans les camps d'Afrique. Donc ça a été très très violent, parce qu'une partie des brigadistes ne sont pas rentrés, ont refusé de rentrer, sont restés dans l'armée espagnole, parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. C'était des gens qui avaient déjà, des apatrides qui avaient déjà fui la Pologne, l'Allemagne et tout ça, et donc ils se retraient l'Italie, et donc ils pouvaient pas rentrer chez eux. Donc une partie des brigadistes sont restés au combat et donc ont passé la frontière avec les 500 000 Espagnols qui ont traversé la frontière. Et ils ont été traités comme les Espagnols, c'est-à-dire mis dans les camps et puis après considérés comme des éléments très dangereux pour la France, donc enfermés dans les camps disciplinaires les plus durs, et jusqu'à les envoyer dans les camps en Afrique du Nord, qui ont été des camps de concentration très très durs, quoi. Et un certain nombre, des camps de concentration, oui. Et un certain nombre, effectivement, se sont retrouvés après dans les camps nazis, quoi, et ont été livrés par les autorités françaises.
Alors, le livre, pour répondre à une dame, le livre de Stein est édité au Seuil. Voilà. Et si on n'en a pas entendu parler avant, c'est parce que pendant 50 ans, il n'a pas été édité. Et c'est la fille de cet homme qui, pour rendre hommage à son père, à éditer ce livre.
Il faudrait rappeler aussi que ces camps dans lesquels les Espagnols et puis d'autres par la suite, anti-nazis et autres, ont été créés par la Troisième République, donc par la République française, et non pas par Pétain. Pétain a pris la suite. Hein. Et donc ça, c'est quand même important. Et puis, c'est plus qu'important.
Mais et puis, dès 1938, il y a des lois qui disent un petit peu ce qu'on dit aujourd'hui avec la loi antiterroriste, c'est-à-dire oui. qu'on va commencer à enfermer les gens qui peuvent être dangereux, voilà. qu'on soupçonne d'être dangereux pour la République.
Tout à fait.
Et ça, sur des soupçons, quoi. Comme aujourd'hui, on peut très bien venir vous arrêter parce que vous avez, voilà, pour X raisons, ou pour peut-être dénonciation de votre voisin, parce qu'à l'époque, ça s'est vu aussi.
Bien sûr.
Donc, en fait, les Espagnols vont tomber sous ces lois-là, et puis ça va être une orgie d'arrestation et puis de situations absolument extrêmes de vie, quoi.
Et c'est vrai que ça fait peur, parce que très peu, mais enfin quand même, ça fait penser à la situation actuelle, avec tous les réfugiés qu'on essaie de refouler, entre autres.
Bonjour. Moi, j'ai trouvé le film très intéressant, surtout d'un point de vue visuel. Mais je connais un petit peu le sujet, parce que je suis à moitié espagnole, mais il manque beaucoup de détails. Et je trouve que, précisément, Je sors avec une impression d'avoir encore faim parce que il y a peu de chiffres, il y a peu de il y a une forme d'accusation mais qui finit pas de prendre forme. Voilà. Et si quelqu'un pourrait m'éclaircir un petit peu sur un petit peu plus sur la façon d'agir concrètement du Parti communiste pendant la guerre pour lutter contre le POUM, je suis preneuse.
Il est difficile d'évoquer des choses. Des choses. Ça marche, mais. Qu'on sait depuis longue date. Mais parlons par exemple d'André Ounine. Je ne sais pas si vous aviez l'intention. On sait aujourd'hui, André Ounine a été torturé et à Alcalá de Henares, et non pas Barcelone. Et on sait également qu'il était dans la maison, une sorte de petite villa qui appartenait à Constancia de la Mora et à Hidalgo de Cisneros. Hidalgo de Cisneros étant le chef de l'aviation républicaine et communiste, de même que Constancia de la Mora, etc. Donc, un exemple quand même de pourquoi pas avoir raconté, parce que c'est une question de détails. Mais les massacrés du POUM et d'autres n'ont pas été tous massacrés à Barcelone, loin de là. Et par ailleurs, je voulais dire autre chose qui a un rapport avec les chefs de l'aviation républicaine, c'est Malraux, et là je ne réponds pas à la question, Malraux dans les films. Malraux, effectivement, a joué un rôle positif, je voulais dire, mais également il y a la légende de Malraux. Et la légende de Malraux dans les films, elle est quand même un peu trop forte. Oui. Et c'est tout ce que je voulais dire. Je pourrais donner des détails. Oui, mais concernant la répression, il y a eu également les anarchistes italiens qui l'ont été, disparus à Barcelone, etc. Donc il y en a eu plein de cas, et y compris à Paris, etc. Bon, par ailleurs, parmi les questions de détails fausses, hein, c'est le fait que Willy Brandt, il a été à Paris, à Barcelone, mais il ne s'est pas engagé. Il était au Genès, et communiste à ce moment-là, et dans les ponts, ainsi de suite. Hein. Bon, mais ça, c'est erreur de fait. Et les chiffres, très importants, parce que je ne suis pas révisionniste en aucun cas. Lorsqu'on parle du Pays Basque, c'est très bien, on montre Durango, et là, on sait le nombre de victimes exactes pendant la messe, etc., etc., et ensuite, des 150 dans les films. Et ensuite, on dit à propos de Guernica, un chiffre, je crois avoir entendu 1700 ou quelque chose comme ça. Ces chiffres sont de plus en plus contestés. Et c'était les chiffres, curieusement, donnés par tous ces historiographies communistes. Aujourd'hui, on ne donne pas des chiffres parce qu'il est difficile de les donner. N'empêche que Guernica et les tableaux de Picasso sont là, comme symbole de l'horreur. Bon, j'ai été déjà trop long, et peut-être je vous ai coupé la parole, mais si, excusez-moi.
La seule chose, c'est que malheureusement, le réalisateur n'étant pas là, c'est lui qui aurait pu répondre sur la façon dont il a traité des chiffres, quoi.
Et sinon, je voulais vous dire quelque chose, parce que moi, ça m'a beaucoup... Pardon, excusez-moi. Je voulais juste dire que j'étais très émue en voyant ce film, parce que mon grand-père, il était au siège à Tolède, et en gros, il y avait un buste de Lénine dans l'entrée. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir un buste de Lénine, sachant qu'on est un républicain espagnol? Je sais pas, moi. Mais j'aimerais bien savoir. Il est plus de ce monde, mais je sais pas. C'est pas Staline, non, mais c'est Lénine.
Oui, tout à l'heure, Edgar Morin fait référence à ce qui s'est passé sur le front d'Aragon, et particulièrement la répression qu'il y a eu contre les paysans qui avaient collectivisé les terres. Il n'en est pas question dans le film, mais dans le processus révolutionnaire, ce qui s'est passé au niveau agraire a été extrêmement important. On voit ces troupes qui partent sur le front d'Aragon, composées de miliciens sur des camions, et on s'aperçoit que très vite, ces troupes libèrent des régions entières, et cela permet aux paysans de collectiviser les terres. Ceci dérange évidemment le Parti communiste qui est en train de s'emparer du pouvoir au niveau central. Et très rapidement, les communistes vont mettre en place une stratégie pour essayer d'endiguer le développement de la révolution sociale et libertaire en Aragon. Les révolutionnaires aragonais vont très très vite puisqu'ils remettent en question le pouvoir central. Ils créent un conseil de défense de l'Aragon qui est aux mains des syndicalistes, de l'UGT et de la CNT essentiellement. Et la révolution a lieu, c'est-à-dire que les terres sont collectivisées, les propriétaires disparaissent, les terres sont collectivisées, et il ne reste plus qu'une petite propriété. Et ce qui se passe très rapidement, c'est que le Parti communiste, avec le gouvernement central, décide d'envoyer des troupes pour mettre fin à cette grande expérience révolutionnaire qui est celle de l'expérience d'Aragon. Et qui envoie les troupes, parmi les troupes du gouvernement central pour réprimer les paysans et s'emparer des terres et les restituer au pouvoir? Eh bien, on le voit, c'est ce général Lister qui est formé à Moscou, en Union soviétique, qui va être à la tête d'une colonne qui va petit à petit mettre fin à la collectivisation, mais aussi réprimer, tuer des paysans. Et ça fait partie aussi de ce vaste plan des soviétiques pour mettre fin à toute tentative de développement d'une révolution sociale et libertaire.
Je voulais simplement donner à une personne qui demandait des écrits qui sont parus, me vient en tête immédiatement, c'est le bouquin d'Henri Pechter qui a été publié chez Spartacus dans les années 80 et qui avait pour titre « La guerre dévore la révolution ».
Je me présente, Jean-Paul Chantreau, je suis membre de la SER, les Amis des combattants en Espagne républicaine, l'association qui porte le souvenir et la mémoire des anciens volontaires des brigades internationales, l'association qui a contribué le 22 octobre de l'année dernière, à l'occasion du 80e anniversaire de la création des Brigades internationales, à l'inauguration d'un monument que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui a été inauguré à la gare d'Austerlitz pour rendre hommage aux volontaires qui venaient des quatre coins du monde, des volontaires qui venaient d'une cinquantaine de pays et qui passaient par Paris, qui était la plaque tournante à partir de laquelle les volontaires qui étaient accueillis par les syndicats, par la CGT, par le Parti communiste, étaient acheminés ensuite sur l'Espagne, vers Albacete et ensuite sur les différents fronts. Ce que je voulais dire, c'est que, en ce qui me concerne, je ferai une remarque à propos du film de M. Rothman, c'est qu'il aurait été bien que ce film rappelle que les volontaires, les survivants des brigades internationales qui ont pu revenir dans leur pays en Europe, en France en particulier, dans les conditions qu'on a évoquées là tout à l'heure, c'est-à-dire des conditions sinistres pour les étrangers qui se sont retrouvés à Gurs et dans des camps de sinistre mémoire. Ces volontaires ont été les premiers éléments qui ont organisé la résistance armée, qui se sont retrouvés dans la clandestinité. Ces volontaires ont continué le combat qu'ils avaient commencé à engager contre le fascisme européen en Espagne. Pour eux, l'Espagne, c'était un passage. Et je voudrais rendre hommage à cet effet à un certain nombre de brigadistes plus connus que les autres, comme par exemple le colonel Fabien, qui est à l'origine du coup de feu pour montrer de quelle manière il s'agissait de continuer la lutte contre les Allemands, en 1941. Je voudrais rendre hommage aussi au colonel Gilles, le colonel Gilles Epstein, dont le fils est ici présent, qui était un brigadiste qui a joué un rôle très important dans la résistance et qui est tombé en février 1944, c'est-à-dire pas très loin de la victoire avec le groupe de Manoukian. Et je voudrais rendre hommage également au colonel Henri Roltangui, organisateur de l'insurrection et de la libération de Paris. Mais on pourrait également donner d'autres noms, le chef de la libération de la Corse en 1943, François Vittori, et ainsi de suite. Et on pourrait également parler des brigadistes qui se sont retrouvés en Italie, dans la résistance, en Yougoslavie, partout. Donc, Ce qui manque dans ce film, en effet, c'est un prolongement pour dire que l'épopée des brigades, c'est pas seulement l'Espagne, antichambre de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi la poursuite de ce combat pendant l'occupation. Et ça, ça me paraît regrettable parce que dans l'engagement brigadiste, il y avait un sens. C'était pour défendre des valeurs, avec les sacrifices qui ont été rappelés tout à l'heure, mais des valeurs qui sont encore aujourd'hui d'actualité. La défense de la liberté, de la démocratie, du progrès social et de l'antifascisme, encore en Europe, avec la résurgence des droites et des extrêmes droites un petit peu partout. Et c'est ça qui reste d'actualité. Voilà, je voulais simplement insister sur ce point parce que c'est quelque chose qui passe, qui risque de passer à la trappe, me semble-t-il. Voilà, merci.
Moi, je voudrais répondre à plusieurs personnes. À la fois, d'abord, il y avait une confusion déjà avec George Orwell et Marie l'a signalé au début, c'est-à-dire que dès le 19 juillet 1936, il y a des gens qui partent en Espagne sans attendre de mots d'ordre de personne, et ils sont là. Et ils sont très nombreux. Personnellement, j'ai connu beaucoup d'Italiens, de Bulgares, qui avaient fait la guerre d'Espagne, mais pas dans les brigades. Mais la propagande qui s'est installée après a transformé ces gens en brigadistes. Et, pour mémoire, Orwell n'a pas été brigadiste. Simone Veil n'a pas été brigadiste. Et Mika Echeverri n'a pas été brigadiste. Ils étaient en Espagne, mais ils étaient dans des colonnes de la Trinité ou dans des colonnes du POUM. Bon, donc, ça, déjà, ça crée une confusion. Cette confusion va suffisamment loin. Vous avez dû lire le livre de Lydie Salver qui s'appelle « Pas pleurer ». Bon, eh bien, il est très correct, le livret, il est très, très, très bien. Mais elle arrive à croire, et dans la famille, on croit, que sa demi-sœur est la fille d'un brigadiste, parce que c'est un Français dans la famille, on l'appelle ironiquement la fille d'André Malraux. Or, c'est tout à fait impossible, puisque l'aventure que sa maman, Monse, a avec ce Français combattant a lieu au mois d'août 1936, c'est-à-dire que les brigades sont arrivées en octobre. Donc, mais la propagande machacona, comme on dit en espagnol, a fini par imposer que Orwell était brigadiste, que Simone Veil était brigadiste. Dans une exposition que j'ai vue récemment, on voyait Simone Veil présentée comme brigadiste. Or, Simone Veil, tout le monde normalement devrait savoir qu'elle a combattu dans des colonnes de la Trinité. Bon, donc, il y a ce truc, donc c'est un point assez important, et ce n'est pas une continuité. Les Italiens internationaux qui sont arrivés en juillet étaient tellement importants que pendant toute la guerre, ils ont publié un journal en italien, à Barcelone, qui s'appelait « Lutta de classe ». Donc, ils étaient très, très nombreux. Et donc, ça, il convient de voir. Alors, après, sur l'engagement des brigadistes, ce qu'a fait le Parti communiste, c'est profiter de l'élan solidaire de la population en général pour l'encadrer, après. Mais, évidemment, l'encadrement des brigades était totalement stalinien. Mais les gens à l'intérieur, non. Et d'ailleurs, dans le livre de Suzleski, oui, il dit que, il signale qu'il y a énormément de brigadistes qui désertent pendant la guerre pour se raccrocher à des unités de la TNT, de l'UGT et du POUM. Donc il y a énormément de désertions. Donc c'est important. C'est-à-dire qu'on voit bien que les brigades, ça a été un élan populaire très important, mais que l'encadrement, comme ça se passe assez souvent, a été fait par le Parti communiste.
Mais je voudrais savoir qu'il y avait des brigades russes ou pas.
C'était des... Ah non, je... non. Non, non, les...
C'était quoi, des brigades ?
C'est des conseillers. Alors,
on dit qu'il y avait
Ah si, c'était un conseiller. Ah oui, oui. Alors, quelqu'un a posé, et monsieur a eu raison de bien signaler que Hidalgo de Cisneros, dont le chef de l'aviation républicaine, était communiste, et c'est dans sa maison qu'a été torturé Andrés Nin. C'est assez important. Mais après, comment le Parti communiste, étant très minoritaire, c'est dit dans le film, comment ils se sont emparés? C'est très simple, ils procuraient les armes, et puis comme d'habitude, ils ont noyauté l'armée et la police. Les ouvriers ne les intéressaient pas tellement. Hein. Ce qui les intéressait, c'était l'armée et la police. Et donc, ils sont arrivés, grâce aux armes fournies par l'Union soviétique, à s'emparer des postes de commandement. Et typiquement, et Cisneros, je continue sur Cisneros, parce que c'est assez important. Cisneros, c'est un militaire espagnol, mais ce militaire, il a un passé. Et ça a été quand même le premier militaire qui a balancé du gaz moutarde sur les Marocains. Donc, en 1920, il a balancé du gaz moutarde sur les Marocains. Et il est mort après. Donc, si vous voulez, la façon de raisonner des totalitaires se ressemble énormément entre, finalement, les staliniens et puis les militaires. Bon, le pas est vite franchi. Hein. Voilà.
Ouais, merci.
Le monsieur qui a demandé la parole, il va être très bref pour dire deux ou trois choses un petit peu subversives peut-être. Il faudrait peut-être pas trop idéaliser l'image d'Orwell, Hemingway, Saint-Exupéry, qui étaient avant tout des journalistes et qui ont été payés pour faire ce qu'ils ont fait. Hein?
Orwell était un combattant.
Non. Bon, peut-être ont-ils eu effectivement très chaud en allant dans les zones de combat. Peut-être, oui, n'y avait-il pas à l'époque des gilets pare-balles avec écrit presse dessus, mais bon, en fait, c'était avant tout des reporters, quoi.
Non. Orwell était engagé réellement dans une brigade et il s'est battu en tant d'accord. que tel, en tant que combattant.
Bon, ce que je voudrais dire aussi par rapport, il se trouve que j'ai un petit peu travaillé le sujet du bataillon Thälmann, qui était une partie d'une brigade qui était composée d'antifascistes allemands. La seule chose, et j'ai annoncé que ça serait subversif, la seule chose qui a sauvé les antifascistes allemands qui étaient engagés au moment de la retirada, c'est de se retrouver dans les camps en France. Parce que ceux qui ont choisi de prendre le bateau et d'aller à Moscou, ils ont tous été liquidés. Voilà. Ça, c'est une vérité historique. C'est tout. C'est pas de la polémique.
Ce que je voulais ajouter, moi, par rapport à ce que tu as dit, Jean-Paul, c'est que il est d'usage chez les Espagnols combattants antifascistes de dire et de déclarer partout et tout le temps que la Seconde Guerre mondiale a commencé le 19 juillet 1936. Et je pense que en tant qu'antifascistes, les brigadistes et les Espagnols qui ont passé la frontière, qui se sont retrouvés dans les camps, se sont tous retrouvés en fait en première ligne dans la résistance et dans la lutte antifasciste.
Voilà. Oui, moi j'étais toujours dans ma vie antifasciste, mais le problème c'est qu'il faut savoir entre la théorie et la pratique. Hein. Maintenant la télé on dit fasciste et tout ça, il faut voir quelque chose dans la vie. Hein. Moi, j'étais toujours convaincu franco dans ma jeunesse. Hein. Et peu à peu, moi, j'étais toujours pour le communisme. Mais peu à peu, quand j'ai vu la guerre d'Espagne, moi, je dis qu'il y a deux guerres dans l'Espagne. La guerre avec Franco et les communistes avec les gens qui voulaient une république. Et je dis, et c'est qui a fait un peu la pagaille? C'est les communistes qui sont venus. Ils voulaient pas que l'Espagne prenne qu'ils fassent vraiment une république. Après, ce que je trouve scandaleux encore plus, et là, pour ça, je continue à être communiste, mais plus, je crois plus au communisme, par l'être humain, hein, parce que quand je vois, comme je me suis bagarré toute ma vie, quand je vois que les pays communistes, la Russie, la Chine, même Cuba, c'était plus criminel que les fascistes qu'on combattait. Et quand je vois le problème, comme même les Russes qui sont venus en conseillant tout ça ici, ils sont venus et qu'ils vont dans leur pays, ils se font tuer par le régime lui-même. Il faut savoir.
Merci monsieur pour votre contribution au débat.
On fera un débat sur l'indépendance une autre fois.
Je voudrais répondre à la jeune fille qui tout à l'heure était très émue en parlant du buste de Lénine dans sa famille. En ce moment, on est en train de déléniniser, c'est pas facile à dire, hein, tous azimuts. Moi, personnellement, je pense qu'on a raison. Mais le fait que un grand dirigeant ait servi de cache-sexe aux atrocités du communisme, entre guillemets, l'utilisation du communisme en URSS et dans d'autres pays, c'est malheureusement très classique. En Espagne, nous en avons eu quelques-uns. Nous en avons peut-être quelques-uns ici, mais qui se calment. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être restés aussi nombreux pour ce débat difficile. Nous avons été étonnés de ne pas trouver un stalinien de service pour venir protester. Nous en avions aussi, nous nous y attendions. Et je le comprends. Et pour vous répondre, monsieur, sur les brigadistes russes, il n'y en a pas eu. Mais il y a eu des centaines de conseillers soviétiques et d'agents du NKVD. Voilà. Oui, bien sûr. Ils ont exécuté. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre contribution, monsieur.
Merci à vous. Et donc, si vous n'avez pas encore laissé votre adresse mail, laissez-la pour qu'on puisse vous prévenir de nos manifestations. Et on vous remercie d'avoir été présent et on vous attend pour la prochaine fois.